Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
C'est l'histoire fantastique d'un jeans mal coupé. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, un pantalon charmant appelé jeans. C'était un pantalon des plus agréables, fait d'un tissu souple et élastique, mais comme il était aussi de ces pantalons qui vous durent, ses coutures étaient solides et rigides, surtout au niveau des endroits délicats. Un beau jour, alors qu'il était encore tout jeune, il fit la rencontre de jambes, avec qui il s'est très vite senti à l'aise. Ils décidèrent donc de rester ensemble pour faire plein de belles promenades. Les jours passaient et ils apprenaient à se connaître l'un l'autre. Jeans épousait parfaitement les formes de jambes. Pour se sentir plus en harmonie encore, Jeans s'était retroussé pour que sa partie basse, qui jusque-là ne faisait que frôler les jambes, lui soit finalement parfaitement ajustée. Ils allaient ensemble, par-delà les chemins, ne faisant plus qu'un, bien que Jeans ne couvre plus jambes que jusqu'en dessous des genoux. Mais il faut bien laisser à chacun ses espaces de liberté. Lors d'une de ces nombreuses promenades qu'ils faisaient ensemble, Jeans découvrit un lieu merveilleux. Ou plutôt, ce lieu merveilleux se découvrit à Jeans. C'était en pleine rue, par un beau printemps. Il y avait dehors une foule de personnes indifférentes. Jeans et jambes marchaient vite, très vite. La couture de Jeans à l'entrejambe s'était relevée. À ce moment précis, Jeans fit la rencontre de Vagin. Vagin était endormi depuis bien longtemps lorsque Jeans le réveilla. En effet, un mauvais sort lui avait été jeté par Patriarca. Patriarca, c'est le méchant de l'histoire. C'est lorsque la couture de Jeans a frôlé Vagin pour la première fois que celui-ci s'est réveillé. C'était un réveil très doux qui commença par un frottement à peine perceptible. Puis le bout de tissu s'est baladé avec Vagin, lui caressant les lèvres au gré des mouvements de la promenade. Et Jeans les faisait se rencontrer, se séparer, se rencontrer de nouveau dans une danse frénétique. Vagin se sentait chauffé, il avait de plus en plus chaud. Le reste du corps auquel il appartenait était pourtant frais, caressé par l'air que provoque une marche rapide. Vagin continuait à danser avec Jeans. La chaleur continuait à se diffuser, toujours plus forte, toujours plus loin. Chaque nouveau contact avec Jeans devenait plus intense, lui apportant toujours plus de plaisir, jusqu'au moment où Vagin eut l'impression que le contact avec Jeans s'était répandu partout en lui, provoquant un plaisir immense. Puis Vagin perdit connaissance. Une seconde, peut-être plus, peut-être moins. Vagin était heureux. Depuis lors, Jeans et jambes se promenaient ensemble encore plus souvent qu'avant. Lors de ces balades, il n'était pas rare que Jeans surprenne Vagin à l'improviste. Ces réveils inattendus satisfaisaient pleinement Vagin, qui communiquait son bonheur à jambes, à ventre, à bras, à nez, et à d'autres encore. Un jour, Jeans mourut. Et depuis ce jour-là, jambes et Vagin sont à la recherche d'un autre pantalon aussi parfait que Jeans. Offre récompense à toute personne qui indiquera où trouver un jeans mal coupé aux coutures rigides à l'entrejambe.
Bienvenue. Bonsoir. Sur Calibre.
Bienvenue, bienvenue. C'est une nouvelle émission en direct de Calibre. Et ce qu'on vient de vous passer, c'est un extrait d'un CD dont on a déjà parlé et qui s'appelle Les Monologues de Mateusz. Et c'est un texte, en fait, qui a été écrit par une femme qu'on connaît pas spécialement et qu'on avait envie de passer parce qu'il y a quelques émissions de ça, en fait, on avait parlé un petit peu masturbation. On avait eu très envie de parler, de diffuser ce morceau et puis on n'avait pas eu le temps. Alors voilà, on a rattrapé et on fait ça ce soir.
En vérité, c'est une femme qui a vu le spectacle des monologues du vagin et qui, suite au spectacle, a écrit ce petit conte. Et nous, il est arrivé entre nos mains, comme ça, sous cette forme que vous avez entendue. Plutôt magique, non? Bon, bienvenue sur Calibre. Donc, ce soir, c'est Myriam, Marina, Mélanie et Laura à la technique pour vous accueillir au téléphone, pour discuter avec vous. Appelez-nous 04 76 09 09 09. À Calibre, on peut parler de tout, mais surtout de sexualité, d'amour, de rapport au corps, de tout ça. C'est les sujets qu'on vous invite à discuter avec nous, parce qu'on pense qu'il y a peu d'espace dans cette société où l'on peut en parler librement, sans tabou, sans peur d'être jugé ou mal reçu. Enfin, en tout cas, nous, on vous attend avec impatience et sympathie.
Que dire de plus sur la mission? A priori, vous connaissez, hein, on n'est pas des expertes, on n'a pas réponse à tout, et en gros, c'est vous qui faites vivre l'émission en nous appelant et en lançant les sujets dont on va discuter ensemble. Du coup, en attendant un éventuel appel de quelqu'un ou quelqu'une qui aurait envie soit de poser une question, soit de témoigner sur quelque chose, enfin, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une question précise hein, pour appeler. C'est juste si vous le sentez, ben, appelez, quoi. Et en attendant, en fait, on a reçu un mail cet après-midi sur notre boîte mail, un témoignage d'une femme, et du coup, on avait envie de vous le lire, si ça pouvait vous susciter aussi des... Voilà, des envies d'appeler. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup parlé.
Alors, j'ai envie de dire avant de commencer que si toi qui as écrit ce mail, tu nous écoutes en direct et que ça te motive à nous téléphoner, moi, je trouverais ça vraiment chouette de pouvoir discuter avec toi qui as écrit ce mail. Mais toi qui écoutes, qui n'as pas écrit ce mail et que ça donne envie de témoigner, tu peux nous appeler aussi. Salut, j'aime bien écouter l'émission, c'est un chouette moment. Alors je voudrais parler de la distorsion que je ressens fortement entre la manière dont je voudrais vivre mes relations affectives et les émotions contradictoires que je ressens et que je n'arrive pas à dépasser et qui me font souffrir. Après avoir vécu essentiellement des relations de couple exclusives, j'ai vécu plusieurs relations libres, sans se référer à des schémas prédéterminés, mais en étant sincère dans nos désirs et sans vouloir posséder ou contrôler l'autre en se détachant de ce sentiment d'appartenance. Et je trouve ça vraiment compliqué, parce que j'ai l'impression que pour moi, être amoureuse, c'est un sentiment passionnel, où l'autre est très présent dans ma vie, en tout cas dans mon espace mental, même s'il peut y avoir de la distance géographique et que l'organisation de mon quotidien n'est pas centrée sur l'autre. Je ressens vite une forte dépendance que je n'arrive pas à rationaliser. J'ai pensé que vivre plusieurs relations pouvait m'aider à dépasser cela. J'ai expérimenté que je peux avoir des sentiments, partager de la tendresse, de la sexualité avec plusieurs personnes, que c'est possible sans que l'une des relations n'annule les autres. Cependant, si je ressens une attirance très forte pour une personne et que j'ai envie de passer souvent du temps avec elle, les autres relations sont plus en retrait, en tout cas pendant un moment. Et à l'inverse, si j'ai envie de passer beaucoup de temps avec une personne et que celle-là veut une relation plus distanciée, je trouve que c'est difficile, ça me fait mal. J'ai l'impression de ressentir systématiquement une dépendance à une relation amoureuse, qu'il s'agisse d'une relation exclusive ou pas. J'ai l'impression de pouvoir parfois contrôler cette dépendance, y mettre des freins, tenter de la rationaliser, si je sens une certaine stabilité dans la nature de la relation. Mais si les choses sont un peu floues, j'ai l'impression que cela renforce les angoisses que je peux ressentir et j'ai un peu du mal à voir comment faire autrement. Je n'ai pas envie d'engagement parce que ce serait comme mentir, en tout cas se rassurer par des paroles dans le vent. Et en même temps, j'ai du mal à vivre avec les doutes tout le temps. Je ne sais pas dans quelle mesure je ressens ces trucs parce que j'ai été et je me suis construite comme une femme. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il y a de genré et dont je peux me débarrasser là-dedans. Je ne sais pas non plus quelle est la part de construction sociale dans ce que je ressens quand je suis amoureuse. C'est à la fois quelque chose qui me donne des ailes et quelque chose qui me détruit. Je me sens complètement dépassée. Je ne sais pas quoi faire non plus de la question des attentes. Je me dis que c'est assez courant d'avoir des attentes envers les gens avec qui on est en relation, puisqu'on est en échange. Mais quand je suis amoureuse, ces attentes peuvent alors me bousculer complètement, prendre des formes incompréhensibles. Tout le reste paraît fade, mais parfois les moments partagés avec la personne le sont aussi, comme si j'attendais quelque chose qui n'existe pas. C'est super frustrant, parce qu'en fait, pendant ce temps, je vis plein de choses chouettes, mais j'arrive pas à en profiter. Voilà, je sais pas trop comment faire avec tout ça. J'en parle avec mes partenaires, avec mes amis, j'essaye de prendre de la distance. Et je finis par me dire que, plus ou moins à chaque fois que je veux un truc fusionnel, qu'il y a toujours un moment où ça devient compliqué ou impossible, ou qu'on ressent plus les trucs pareils, alors ça me fait trop mal et j'arrête. Et après, quand une sorte d'indifférence a pu s'installer, avec le temps qui passe, ça redevient possible pour moi de partager des choses avec la personne sans y mettre d'attente. Ça me fait chier de vivre et de ressentir les choses comme ça, parce que je me sens pas libre. Et j'ai l'impression de me mettre en danger, de retomber dans le panneau à chaque fois, dans mon propre panneau. Et en même temps, je pense que ces trucs de dépendance, d'aliénation, d'attente, ça n'arrive pas qu'à moi. Voilà. C'est sans doute confus et contradictoire, mais bon, de toute façon, c'est comme ça aussi dans ma tête, alors salut.
Ben, déjà, merci beaucoup hein, d'avoir envoyé ce mail très très intéressant. Bon, ben, moi, il me parle sur plein de points de vue, hein, c'est sûr. C'est des trucs qu'on vit, que je pense que nous sommes beaucoup à vivre, en fait. Hein, ces sentiments de contradiction, de décider quelque chose intellectuellement ou mentalement, et puis que le corps, il réagit pas pareil.
Et c'est un sujet qui a l'air de prendre pas mal de place, finalement, à Calibre. Mmh. On nous appelle souvent à ce sujet-là. On nous écrit beaucoup aussi de mails. Sur ce sujet, un peu, vous voyez, des relations amoureuses... avec plusieurs personnes à la fois, ou quand on essaye justement de ce qu'elle appelle la non-exclusivité, le fait de ne pas être exclusivement avec une seule personne et de pouvoir envisager d'aimer plusieurs personnes en même temps et que la personne qu'on aime puisse aimer d'autres personnes aussi. Ce qui, on imagine bien, peut provoquer beaucoup de choses pas forcément évidentes. Et j'ai l'impression que c'est souvent abordé dans Calibre et je trouve ça hyper intéressant et effectivement très important d'en parler. Et même au-delà de la question de l'exclusivité ou pas, je trouve que de toute façon, ce texte, il nous parle de plein de choses, sur la dépendance, sur l'envie de liberté, sur justement ces sentiments contradictoires-là. Et nous, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, bon, le mail, on l'a reçu
juste
vraiment
avant
fin d'après-midi. Hein. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pourrait vous en parler, mais finalement, peut-être qu'on redirait un peu toujours les mêmes choses et que c'est quand même vraiment plus intéressant d'échanger. Avec toi, vous, je ne sais pas qui, qui voudrait nous appeler. Donc, si vous avez envie de nous appeler à ce sujet-là, vraiment, voilà, nous, ça nous fait plaisir d'en parler, mais on ne va pas en parler plus longtemps toute seule sans vous, parce que ça nous semble moins, comment dire, émulsifiant.
Cette vision de l'amour aussi, ce besoin d'amour fusion, comment on le gère. Enfin voilà, ces discussions que j'ai eues avec des amis qui étaient vraiment hyper intéressantes à chaque fois. Et c'est vrai que voilà, bon, ça me tient bien d'en parler, mais effectivement, faut
on a
pouvoir
besoin
échanger.
De vous pour ça. Alors on vous rappelle le numéro 04 76 09 09 09 pour nous appeler. Et puis si jamais vous avez une autre question qui a rien à voir avec le Schmilblick, il y a pas de souci, hein, pas de complexe, allez-y.
Du coup, on va s'écouter un morceau. Alors, c'est un morceau qu'on a... que allez, Marina, assume.
Ouais, d'accord, j'assume. Mais parce que c'est un ami de Saint-Étienne qui m'a offert cette compilation suite à un concert qu'il organisait à Saint-Étienne il y a quelques semaines. Vous en avez rien à foutre. En tout cas, c'est un morceau qui s'appelle Viviane. Le groupe s'appelle Cœur Vert. Je n'ai absolument aucune idée d'où ça vient. Mais en tout cas, voilà... en tout cas, ça s'appelle Cœur Viviane, c'est Cœur Vert, et puis écoutez, vous verrez bien ce que vous en pensez, vous. Moi, j'assume.
Un garçon, c'est beau, une fille aussi, nous sommes des petits champignons intersexes, homosexuels, de père en fils, de mère en fille. Être sensible, c'est
génial. Un garçon c'est beau, une fille aussi. Nous sommes des petits champignons intersexes, homosexuels, de père en fils, de mère en fille. Depuis la nuit des temps, nous masturbons sur la terre à la recherche de l'amour. Nous masturbons sur la terre à la recherche de l'amour. Le mariage c'est con, je dis non. L'éducation nous façonne et nous détruit. Je suis pédé et c'est comme ça que je m'évade. Nous ne sommes pas hétéros, nous sommes uniques. Nous masturbons sur la terre à la recherche de l'amour. Nous masturbons sur la terre à la recherche de l'amour. Un garçon c'est beau, une fille aussi. Nous sommes des petits champignons intersexes, homosexuels.
Calibre sur Radio Kaléidoscope 97 FM, l'émission de Libre Antenne, pour parler d'amour, de sexualité, de rapport au corps.
De petits champignons, comme disait la chanson, et sans transition.
En parlant de champignons, moi je voulais vous parler de ce que des millions de filles nous vivons, nous subissons. C'est terrible. Ça n'est vraiment pas pris au sérieux, c'est vraiment pris à la légère par la médecine, on dirait. Peut-être que c'est pas si grave, finalement, il y a des maladies bien plus graves, et ça c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est chiant et qu'est-ce que c'est handicapant. Rien que pour venir en vélo jusqu'à la radio, j'ai galéré.
De quoi tu parles ?
Des mycoses.
Ah.
Ah, la mycose. Je ne sais pas combien, je crois que c'est 70% des femmes ont des mycoses au cours de leur vie. J'ai l'impression que les techniciennes sont d'accord avec moi. Alors, la mycose. Non, mais sérieusement, du coup, c'est pas juste pour vous raconter ma vie, parce que c'est bon, j'ai suffisamment d'amis pour leur raconter ma vie, mais c'est parce que je pense que c'est bien d'en parler. Je me demande si moi, franchement, je n'arrive plus à penser à autre chose. Je saoule tous mes amis depuis 10 jours pour ça. Des fois, je suis incapable d'utiliser mon cerveau tellement ça me gratte. Enfin, je trouve ça vraiment handicapant. Et je me dis qu'il faut qu'on s'en parle parce qu'en fait, c'est pas si simple à soigner. Non. C'est vraiment chiant et handicapant, faire du vélo, tout ça. Et puis quand même, effectivement, c'est pas si grave et il y a par exemple très peu de complications. Enfin, je veux dire, on risque pas de devenir stérile, on risque pas de tomber plus gravement malade que ça. A priori, il y a peu d'effets. Enfin,
Oui, ça reste local et voilà. C'est chiant, mais bon, c'est sans doute pour ça, hein, d'ailleurs, qu'il n'y a pas tellement d'avancées sur comment soigner tout ça.
Hein. Eh oui, parce que c'est la grosse merde. Alors moi, comme beaucoup de mes contemporaines, qu'est-ce que j'ai fait ? Un soir de désespoir, seule chez moi, j'ai été sur Internet et je me suis rendu compte que des centaines de filles aussi en parlent sur Internet. Et il y a des forums où vraiment ça va dans tous les sens et tout. Alors du coup, c'est hyper difficile de s'y retrouver. Parce que effectivement, il n'y a pas une solution. Alors moi, je vous donnerai pas ce soir la solution miracle parce que je crois qu'elle n'existe pas.
Et puis j'ai l'impression que ça change beaucoup d'une femme à l'autre. En fait, il y a des choses qui marchent sur certaines, pas sur d'autres. Ça dépend de notre état, ça dépend du moment.
Mais effectivement, comme je suis féministe, quand il m'arrive un truc dans ma vie, j'essaye d'en faire de la théorie. Et par exemple, là, du coup, j'ai vachement été voir sur Internet. Et puis, comme on a l'habitude d'aller voir sur les forums pour Calibre, du coup, j'ai été voir pour moi et puis pour Calibre, tant qu'à faire. J'ai fait double emploi. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a fait réfléchir à quelques petits trucs. Par exemple, aussi dans mes recherches, des fois, j'aime bien aller voir sur les images. Vous savez, dans les moteurs de recherche, vous pouvez choisir images. Je me suis dit, est-ce que je vais trouver des images trash?
Ouh là là.
Eh bien, non. Il n'y a pas d'image de vulve avec des mycoses. On n'en trouve pas. J'ai trouvé des images de pénis avec des mycoses, mais pas des images de vulve.
D'accord.
Et je pense qu'une fois de plus, c'est encore ce truc que des images de vulve, c'est quelque chose de pornographique. Alors que des images de pénis, ça ne l'est pas. Enfin, vraisemblablement, on trouve beaucoup d'images, facilement des images de pénis sur Internet. On trouve aussi facilement des images de vulve si on cherche des trucs pornographiques, par contre. Mais vous voyez, bon, bref, voilà, c'était une petite réflexion. C'est vrai que je pourrais commencer par le début. Qu'est-ce qu'une mycose ? C'est vrai, ça. Alors, une mycose, c'est un champignon. Le nom savant, c'est Candida albicans, je ne sais pas. Ou candidose. Et en fait, c'est tout simple, l'explication, c'est la prolifération de petits champignons qui sont en fait déjà naturellement dans la flore vaginale. Mais vous voyez, la flore vaginale, c'est un espèce de plein de trucs. Là, je ne suis pas biologiste, je ne saurais pas vous expliquer, mais de différents types de champignons, de trucs qui vivent.
De bactéries,
petits écosystèmes, là, comme ça, dans notre vagin. Et puis, des fois, ces champignons-là, ils prennent le dessus où il y a un espèce de déséquilibre qui se passe. Et il va y avoir une prolifération de ces champignons et ça va créer des irritations. Ça gratte à mort, ça brûle. Et puis alors dès qu'on se met à gratter, ça empire. Alors ça peut être effectivement au niveau interne et puis aussi au niveau externe. Donc sur toute la vulve, sur le clitoris, sur les petites lèvres, à l'entrée du vagin.
Partout.
Voilà, on peut découvrir tous les petits recoins de notre magnifique sexe que nous aimons tant. Et donc, les risques, enfin, les facteurs de risque des mycoses, il y en a de nombreux, et puis des fois, on ne sait pas. Hein. Mais bon, les antibiotiques, a priori, souvent, il arrive souvent qu'après un traitement par les antibiotiques, eh bien, ça déséquilibre la flore vaginale et bam, mycose. Les changements hormonaux, une grossesse, l'allaitement, la ménopause, enfin, tous les trucs qui vont aussi bouleverser l'équilibre. Les douches vaginales, les produits d'hygiène féminine qu'on trouve dans le commerce sont très nombreux à être finalement pas si positifs pour notre sexe qu'ils le prétendent et qui justement déséquilibrent à vouloir sentir bon, à vouloir éliminer les pertes blanches, la mouille, tout ça. On va déséquilibrer aussi le pH vaginal et du coup, ça, voilà. Donc les douches vaginales, ce truc de vouloir être propre, a priori, c'est vraiment mauvais et c'est vraiment une des causes forte de mycose. Alors j'ai vu un truc sur le sperme qui perturberait le pH du vagin. Alors c'est pour ça qu'on conseille souvent, quand on a des mycoses à répétition, de plutôt avoir des rapports de pénétration protégés par un préservatif.
D'accord.
Parce que le sperme serait un facteur de déséquilibre du milieu vaginal.
D'accord. Bon. Il y avait aussi des espèces de facteurs, les endroits chauds, humides, comme
voilà.
Les piscines, des sous-vêtements serrés.
Les sous-vêtements en synthétique, porter des collants, tout ça. Et puis alors voilà, mais alors il arrive qu'on n'ait rien fait de tout ça et qu'on ait quand même une mycose.
Eh bah oui, pas de chance.
Et alors là, tu te dis, qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être aussi du stress, c'est peut-être aussi je ne sais quoi, on ne comprend pas tout de nous-mêmes. Mais effectivement, on conseille de porter des sous-vêtements en coton, par exemple. On conseille d'arrêter d'utiliser les produits d'hygiène commerciaux qui sont a priori plutôt néfastes et d'utiliser plutôt des savons. Je sais plus trop.
L'idée, en fait, c'est de prendre quelque chose qui a un pH neutre pour que ça n'aille pas perturber, ni rendre plus acide, ni rendre plus basique la flore vaginale. En fait.
C'est ça.
Et il y en a très peu, en fait, dans les produits d'hygiène intime féminine. Il y en a pratiquement pas qui sont au pH neutre, en fait.
Ouais.
Ça marque respect de votre corps, machin, mais si tu regardes le pH...
Alors voilà. Et du coup, à partir de là, sur les forums, c'est vraiment hallucinant. Il y a des pages et des pages de témoignages, de questions, de filles qui pètent des câbles en disant « Mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ?» et tout. Il y a énormément la question de la sexualité qui revient quand même. Alors c'est intéressant parce que du coup, ça permet de se parler. Hein, ça devient vraiment un problème dans les couples parce que effectivement, quand ça gratte, quand ça brûle et tout, les rapports sexuels de pénétration, mais tous les rapports sexuels, ça devient hyper désagréable. C'est plus possible, quoi. Alors, il y a des filles qui disent qu'elles se forcent. Alors, je me dis, ça ne doit pas arranger leur mycose. Parce que franchement, ça doit irriter encore plus. Parce que c'est ça. Après, ça devient... C'est à vif, quoi. Vous voyez, c'est l'angoisse. Mais ce qui m'étonne beaucoup, quand même, ce que je me permets de souligner dans ce que j'ai lu sur les forums, c'est que les filles qui témoignent paraissent plus inquiètes pour leur partenaire, le disent plus en mode « Ah là là, je peux plus faire des câlinous avec mon chéri, il va en avoir marre », plutôt que de dire « J'ai trop envie de baiser, j'en ai marre !» Et j'ai envie de souligner ça. Bon, mais ça me semble une construction souvent... genrée, hein, c'est-à-dire que quand je dis une construction genrée, je pense que nous, les filles, on a été éduquées dans l'idée que la sexualité, c'était quand même avant tout pour apporter du plaisir à nos partenaires, pour prouver à nos partenaires qu'on les aime, etc. Et pas tant abordé sous l'angle de notre désir.
Oui, et puis en plus là, ça sous-entend que c'est une sexualité où on se focalise sur le sexe en fait, parce que c'est très possible de vivre encore une sexualité si on n'est pas dans une période où vraiment ça fait mal et ça démange, parce qu'après là, ça atteint carrément le cerveau, on peut plus se concentrer, quoi. Mais bon, il y a moyen quand même de vivre une sexualité
non-génitale. Sans... Ouais. Oui, il faut un peu d'imagination.
Absolument.
Alors, est-ce qu'il y a des solutions ? Eh bien, il y en a des possibles solutions, il y en a plein. Des solutions sûres, efficaces à 100%, non. Moi, je ne suis pas médecin. Et au vu des milliards de conseils que j'ai vus sur Internet, que j'ai entendus par les copines qui te donnent leurs trucs, sur moi, ça a trop marché, sur des brochures que j'ai, des livres de santé un peu parallèles par les plantes. Juste, il y a des milliards de possibles. Je pense que c'est à chacune de faire nos choix et nos expériences. C'est ce que je dirais ce soir. Voilà. Et puis, selon le moment dans notre vie, selon aussi si on se dit « Non, mais là, j'ai envie que ce soit efficace rapidement », peut-être ça peut marcher, peut-être pas. Ou si on est prête à prendre du temps, je sais pas, chacune de voir un peu. J'ai quand même lu quelque chose qui me paraît assez crédible, c'est que... Si on a des mycoses à répétition, ça vaut le coup de s'interroger sur des choses plus de faire vraiment une recherche de fond, quoi. Mm. Et pas juste chercher à soigner les symptômes, mais aussi se demander quand est-ce qu'on a des mycoses, qu'est-ce qui nous arrive avant, est-ce qu'il y a des facteurs de stress, essayer de repérer dans sa vie.
Ok, à quel moment elles arrivent pour essayer de voir quels sont les facteurs, pas forcément physiques, qui déterminent cette apparition, quoi.
Et donc les solutions, il y a la solution, les solutions proposées par la médecine occidentale traditionnelle, c'est-à-dire l'allopathie, c'est des ovules ou des crèmes antifongiques. Antifongiques, ça veut juste dire anti-champignons. donc voilà, ça se trouve en pharmacie sans ordonnance, mais du coup c'est pas remboursé. Mais ou alors on peut se les faire prescrire et rembourser. Donc c'est des ovules ou sous forme d'ovules ou sous forme de crème. Et il y a des témoignages de certaines femmes qui disent que ça marche très bien, qu'elles font ça. Tac, c'est un ovule qu'on met, il met 3 jours à fondre et à se diffuser dans le vagin. Et à la suite de ça, hop, plus de mycose, si ça marche.
Parce qu'il y a aussi des témoignages de femmes pour qui ça ne marchait pas du tout.
Voilà, hein. Et ce que j'ai trouvé de façon assez importante sur Internet, c'est beaucoup de témoignages de femmes qui ont des mycoses à répétition depuis parfois des années. J'en ai trouvé qui disaient « ça fait 20 ans que j'ai des mycoses », mais je n'ose même pas imaginer. Pardon. Et pour qui la médecine allopathique semble ne pas avoir réussi à les soigner, elles disent « voilà, j'en peux plus ». Des ovules, là, ça marche pas, en vérité. Et donc, elles disent trouver plus de sens et d'apaisement, voire de guérison, avec des traitements de plantes ou homéopathiques, dit naturel ou dit, je sais, alternatif, ou je sais pas quoi. Et un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est j'ai trouvé aussi plusieurs d'entre elles qui ont un discours sur l'automédication, parce qu'elles racontent qu'elles se font un peu taper sur les doigts par leur gynéco ou par leur médecin, parce qu'elles s'automédiquent. Elles vont se dire « Ok, je vais prendre des huiles essentielles, ok, je vais essayer tel machin, tel truc ». Et en fait, du coup, j'ai envie de vous lire des témoignages là-dessus, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Ma gynéco m'a dit d'arrêter de m'automédiquer, mais franchement, nous sommes bien obligés de nous débrouiller nous-mêmes, puisqu'ils sont pas foutus de nous trouver des médocs, mis à part les ovules qui détruisent ma flore vaginale. Une autre, nous sommes les seuls à savoir ce qui marche sur nous, et ou pas, et les gynécos sont les seuls à ne pas comprendre les limites des ovules. Bon. En tout cas, je trouvais, il y avait une certaine... c'était pas juste de l'inconscience, quoi. C'est vraiment, là, ça fait 10 ans que j'écoute ma gynéco, ça marche pas, je vais chercher autre chose et je vais tester, je vais aller chercher, justement, me renseigner et je vais trouver des trucs. Alors, moi, je vais pas donner des trucs, comme ce que je vais dire, je vais pas donner de recettes parce que je me sens pas de porter ça, d'assumer ça à l'antenne, je pense que c'est... Mais vous pouvez trouver plein d'informations. Mais en gros, les produits dont j'ai le plus entendu parler, c'est les extraits de pépins de pamplemousse, qui ont l'air d'agir de renforcer le système immunitaire et d'agir quand même aussi à un niveau anti-infectieux. J'ai pas bien compris, mais en tout cas, ça en parle souvent, sous différentes formes. Renseignez-vous. Le calendula pour apaiser, sous forme de crème, sous forme d'ovule, pour rétablir aussi un peu le pH après des traitements un peu agressifs. Le tea tree, qui est une huile essentielle.
L'huile essentielle d'arbre à thé, mais c'est vrai que souvent c'est marqué tea tree sur les, voilà, sur les bouteilles.
Et alors je me suis aussi rendu compte que, alors il y a des témoignages de femmes qui disaient « Oh là là, mais ça brûle, moi j'en mets comme ça, j'en mets sur un coton-tige et puis je l'applique sur ma vulve et ça brûle ». Et après, t'as d'autres femmes qui disent « Mais ça va pas, la tête, il faut pas l'utiliser pure, il faut la mélanger avec de l'huile ». Mais je me disais, mais les femmes, c'est franchement, tu pètes tellement un câble et t'as tellement pas de réponse que t'es prête à tout, même à te mettre un truc qui te brûle la chatte. Et tu te dis, c'est normal, il faut que j'en passe là pour guérir. Et je trouve ça fou parce que ça brûle vraiment, hein, je pense.
Déjà, ah ouais, de l'huile essentielle pure, waouh.
Donc, ben, je trouvais ça intéressant de noter ce truc-là. Et en tout cas, voilà. Et puis pour soulager, le bicarbonate de soude, produit de cuisine, hein, que vous avez peut-être dans votre cuisine, qui apparemment soulage. Donc, moi,
en bain de siège, du coup.
Ouais, bain de siège. Moi, je mélange, je mets une cuillère ou deux dans l'eau. Tac, je mélange. Tac, 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 tac. Et puis, je me nettoie le sexe avec, quoi. Enfin, je me nettoie, je passe en externe. Hein. Et c'est quand même vachement soulageant. Voilà.
D'accord.
Les petits trucs que moi je peux dire, la crème de calendula aussi, ça soulage. Mais pas la crème parfumée, parce que là ça soulage pas du tout, il faut de la crème.
Oui, il faut pas qu'il y ait de trucs dedans.
La pommade en fait, il faut de la pommade de calendula.
Ouais.
Et ne faites d'ailleurs pas confiance au pharmacien, parce que moi la semaine dernière, le pharmacien, du coup je lui ai demandé 4 fois, mais cette crème au calendula, elle est bonne pour les muqueuses, ça va, c'est bon pour les muqueuses. Et 4 fois il m'a dit, mais oui. Et après je suis rentrée chez moi, et en fait il y avait du parfum dedans. Et
super.
J'avais pas fait gaffe, je m'en suis mise, ça m'a brûlé, c'était l'angoisse. Bref, faites attention, les pharmaciens ne sont pas forcément compétents. Bref, tout ça, j'espère que ça vous donne des petites pistes. Peut-être que ça vous donne envie de réagir.
Bon, il y a d'autres pistes quand même. Hein, dont... Alors moi, je ne sais pas du tout comment ça s'utilise, mais qui reviennent souvent, cette histoire de yaourt ou d'ail. Mais alors, je ne sais pas comment... Enfin, j'ai lu des trucs sur comment ça s'utilise, mais je ne connais pas. Alors je ne vais pas expliquer plus, mais voilà, s'il y a des témoignages ou des idées...
Sur le yaourt, c'est qu'apparemment, c'est pareil, ça aide à rétablir le pH. Et du coup, en manger ou en mettre dans le vagin, ça aiderait à rétablir le pH. On répète que nous, on n'est pas des spécialistes de ça. Et que c'est vrai que, voilà, on donne des petits trucs, mais dites-nous si vous avez des idées. Mais nous avons un appel.
Allô ?
Allô, oui, bonsoir. En fait, j'appelais pour témoigner que y a pas que les filles qui ont des problèmes de mycose.
Ah, très bien, voilà. Bienvenue.
Donc après, alors, même si c'est certainement pas la même chose, puisque c'est peut-être plus externe qu'interne.
Ouais.
Donc c'est sûr que c'est certainement pas la même chose, mais c'est très désagréable aussi.
D'accord. Du coup, c'est un peu les mêmes symptômes et les mêmes démangeaisons, tout ça.
J'imagine, oui.
Ouais.
Voilà. Donc, et que c'est assez galère à soigner aussi.
Ouais. Et t'as, par exemple, il y a, je sais pas si c'est toi ou tes amis, enfin bon, peu importe, mais c'est quoi un peu qui sont expliqués en termes de facteurs déclenchants, en termes de possibilités.
Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être des produits, des savons, comme vous me disiez tout à l'heure.
Ouais.
Ça peut être aussi la piscine. Ça peut être. Ça peut être de la transpiration, tout simplement. Ça peut être vraiment plein de choses, quoi.
Mais est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, que en fait la mycose, ça n'est pas une MST, en fait. C'est pas une. Alors, il se trouve, ça peut se transmettre sexuellement, mais à la base, c'est pas. C'est quelque chose qui peut être créé par ton propre corps, quoi. Enfin, pour les filles, en tout cas, c'est
oui,
ça, tu vois. C'est nous notre équilibre.
Après, c'est contagieux, mais à la base, c'est pas.
Voilà.
Comme ça.
Ouais. Okay. Oui. Et du coup, chez les hommes, ça se manifeste par des rougeurs, des irritations.
Ça fait des plaques, quoi. Alors, ça fait des plaques entre les jambes et puis un peu sur le...
Sur le pénis.
Sur le pénis aussi, quoi.
D'accord.
Et donc, c'est embêtant, puisque, en effet, moi aussi, j'ai envie de faire des galipettes la nuit, puis je peux pas.
Ouais.
Donc c'est assez handicapant.
Eh oui. Mais parce que du coup c'est douloureux.
C'est pas forcément douloureux, mais c'est surtout pour pas en refiler en fait. Quoi.
Oui.
pas de ça, c'est quand même très contagieux. Quoi.
Ouais. Et t'as trouvé des trucs pour soigner ?
Alors, ben, j'ai trouvé des pommades antifongiques, pareil.
Qui ont été efficaces ?
Qui ont été efficaces, mais c'est revenu, quoi.
Ouais.
Ouais, ça revient. Non, mais ça a l'air d'être vraiment le problème des mycoses. Alors, effectivement, du coup, pour tout le monde, c'est que c'est à répétition, quoi. Est-ce que toi, tu as l'impression que ça revient de façon régulière ou pas ?
Non, enfin, c'est la deuxième fois que ça revient, donc je sais pas trop, mais...
Ouais. Ouais. Parce que ce qui a l'air d'être difficile à mesurer, c'est la part physiologique et la part psychologique de ça. Alors, c'est pas du tout pour. Faut faire attention, parce que j'ai aussi lu des témoignages où, du coup, les médecins servent de ça pour culpabiliser les gens. Vous avez qu'à faire une psychothérapie. Enfin, on n'en est pas là, quoi, mais c'est des fois se poser la question sur le stress, sur. Je sais pas si toi, t'as remarqué des trucs.
Il paraît que ça peut être lié, oui. Après, je sais pas.
Ouais, toi, pas spécialement. Tu t'es pas dit, oulala, là, c'est clair, j'ai été stressé, c'est pour ça.
Non, voilà. Après, je sais pas, peut-être. Après, moi, on m'a dit plein de choses. On m'a dit que ça pouvait être génétique, on m'a dit que ça pouvait être...
Ah ouais.
Ça peut avoir vraiment plein de... Enfin, génétique, dans le sens où...
Héréditaire.
C'est un truc de famille, quoi, un peu.
Ouais.
Quoi. Voilà.
Ah ouais. Eh ben, d'accord, donc en fait tout le monde en souffre de ça, mais c'est terrible.
Donc ce ne sont pas des millions de femmes, mais des milliards d'individus.
Mais j'imagine qu'il y a plus de femmes qui en souffrent, ou alors c'est que les hommes n'en parlent pas.
Ouais, possible aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont tues.
Et qui sont un peu taboues, c'est vrai.
Ouais.
Mais en tout cas, ouais, je sais pas. Donc t'appelais pour ça, pour nous dire les hommes aussi. Et pour apporter voilà. Ton témoignage.
Et moi, il y a un truc que j'ai, en tout cas que moi j'ai vécu et puis que j'ai lu aussi, c'est que le problème aussi des mycoses, même si c'est hyper chiant, ça démange, ça fait mal, c'est pas grave parce que ça se diffuse pas. Mais par contre, ça favorise d'autres infections. Et du coup, après, c'est un peu une réaction en chaîne, mycose, autre infection, ça revient.
Ouais.
Ou alors ça peut cacher une autre infection. Alors ouais. Moi c'est des trucs que j'ai entendus pour les femmes. Alors je ne sais pas pour les hommes, mais en tout cas que ça peut, que ça peut dissimuler une autre infection, peut-être moins, qui a moins de symptômes visibles, mais qui peut être elle plus grave. Donc peut-être si ça revient souvent, pensez peut-être à aller faire des dépistages, pensez peut-être à aller voir un médecin pour faire plus des analyses, quoi.
Dans l'absolu, c'est quand même mieux de le montrer à un médecin, même si c'est pas tout le temps évident.
Ouais.
Oui.
Ce que je comprends tout à fait.
Oui, c'est vrai.
En même temps, faut se dire que les médecins, ils en voient de toutes les couleurs tous les jours, et que c'est pas eux qui nous jugeront de toute façon.
Ah oui, eux, ils ont un autre rapport au corps de leurs patients, hein, c'est vrai.
Mmh. Ok.
Ok. Ben merci beaucoup.
Ben je vous en prie.
Et bah ouais, merci pour ton témoignage, merci de nous rappeler que les hommes aussi souffrent de mycoses. C'est vrai, nous on l'a pas forcément expérimenté, hein, puisque on est femmes.
Voilà.
Et puis, ben ouais, c'est sympa d'avoir amené ces précisions. Et puis on te repasse le standard du coup, Laura.
Merci, au revoir.
Merci.
Bonne soirée.
Au revoir.
Merci.
Bonne soirée.
Bah oui, non mais c'est vrai, j'ai rien trouvé là-dessus. Moi, c'est non, sur internet, il n'y avait pas que les hommes aussi. J'ai pas tapé mycose femme. Hein. J'ai tapé mycose, quoi.
Ouais.
Je tiens à le dire.
Ouais.
Et c'est... Bon, et puis c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir lu que chez les hommes, c'était asymptomatique. Qu'en fait, les hommes pouvaient être porteurs du truc, de la mycose, ce champignon, mais que c'était asymptomatique. Mais
pas ouais, c'est-à-dire que ça faisait pas de réaction physique spéciale.
Et en même temps, ce qu'il a décrit...
c'est pareil, ouais.
Ça me semble logique, puisque les mycoses sur la peau... Et du coup, sur la peau du pénis ou sur la peau entre les jambes, en fait. Mais alors, du coup, c'est ça. Non, mais je suis en train de réfléchir après qu'il a raccroché, c'est dommage. C'est qu'en fait, c'est peut-être pas la même chose que des mycoses.
C'est peut-être pas le candidat albicans, là. C'est peut-être autre chose aussi.
Ouais, et puis parce que c'est pas sur les muqueuses. Est-ce que là, ça avait l'air d'être sur la peau? Bon, il n'a pas décrit sur quelle partie de son pénis c'était. Mais est-ce que nous ne sommes pas des médecins et que peut-être c'est plus difficile de nous en parler à nous? Mais est-ce que c'est sur les muqueuses ou sur la peau? Bref, des questions en suspens. Je pense qu'on peut peut-être en finir avec ces histoires de mycoses hein, et de champignons, de petits champignons colonisateurs.
Et puis du coup, on va s'écouter un morceau, un peu dans le ton. Alors, c'est un morceau qui s'appelle Ma haine, qui parle pas spécialement de mycose.
Mais... Non. Respect, Kazay. On sait très bien que, on a très bien compris que tu nous parlais de bien d'autres choses et autrement plus sérieuses que de petits champignons. Oui, Ma haine, Kazay, une rappeuse
Ouais, une rappeuse d'ici, quoi.
Voilà, qui assure grave.
Et qu'on adore, et on vous passe plein de morceaux, et voilà.
Ce soir. Qui est en tournée en France en ce moment, alors allez la voir sur scène, elle assure.
Et ce soir, c'est donc Ma haine.
Plus cruelle que la pire de tes ruelles, elle est mon sang, mon tout, elle est mon rituel, et j'ai couru pour elle, je mourrai pour elle, j'ai tout fait pour elle, pour moi c'est naturel. Elle m'assiste dans ces moments tristes où la France persiste à vouloir censurer mes pistes, et son rôle consiste à classifier la liste de ceux que j'enverrai voir le médecin légiste. Et elle reste douce dans ses gestes, moi je lui rends l'amour qu'elle me manifeste. Elle empeste le vieux rhum et puis proteste fermement contre toute forme d'alcooteste. Trimestre après trimestre, elle orchestre cette vie que le pouvoir séquestre. Donc à la Saint-Sylvestre, quand un flic se défenestre, elle rit et plus je l'aime, plus on me déteste. Notre rencontre, si j'en crois ma montre, était à l'heure pile où je voulais régler mes comptes. Elle m'a dit tu es noir, il voudrait que tu aies honte, mais tu n'es pas cette bête de foire que l'on dompte. Notre rencontre, si j'en crois ma montre, était à l'heure pile où je voulais régler mes comptes. Elle m'a dit tu es noir, il voudrait que tu aies honte, mais tu n'es pas cette bête de foire que l'on dompte.
Ma haine, haine, quand j'assène les coups même, ceux qui nous craignent savent bien que la crème passe nous. Elle m'accompagne dans les moments les plus importants et puis sous couvert d'anonymat, les crânes verts, quel que soit le climat. C'est le coma pour le commun des MC commet une simple erreur et tu verras ce qu'elle fait. Ce décret prend effet à partir de maintenant. Alors je serai toi, je me méfierai à moi de vouloir partir les deux pieds devant idiotement. Elle me suit comme mon nom, rares les instants où elle s'absente, mes rivaux la ressentent, quel que soit leur nom. Ma haine est dans mes veines, comme avec moi en cellule. Lorsque je purge, elle m'appelle, elle fait des émules, nul ne sert d'être incrédule. Tu connais ma famille, tu sais que les chlasses pullulent. T'as tiré le pire des numéros en page, coup de crapule. Quand elle est là, je côtoie l'exploit. Même si je t'ai tarté ta gueule, c'est que ce jour-là, elle est avec moi. Oh, ma haine.
Notre rencontre, si j'en crois ma montre, était à l'heure pile où je voulais régler mes comptes. Elle m'a dit tu es noir, il voudrait que tu aies honte, mais tu n'es pas cette bête de foire que l'on dompte. Notre rencontre, si j'en crois ma montre, était à l'heure pile où je voulais régler mes comptes. Elle m'a dit tu es noir, il voudrait que tu aies honte, mais tu n'es pas cette bête de foire que l'on dompte.
Citoyen, citoyenne, ma haine est anonyme sur ce sol, elle me console, elle est mon hymne, synonyme de revanche. Elle crache, elle n'a pas le manche, elle est juste de mèche quand ça tranche. Ma haine se place entre le marteau et l'enclume. Elle aime quand un poulet perd ses plumes. Ma haine est sur les murs, squatte les halls, contrôle mes faits et gestes. Elle est indigeste, insolente, excellente pour Marianne. Sa cauchemar qui la hante, la honte, le doigt sur la détente. Un pitchlass, un avion dans les Iowa, un cri de guerre façon Fight the Power. Ma haine a choisi son camp, a fait de moi un con qui fait trop de boucan. Oui, elle a du charme, elle est belle comme une arme. Elle est impolie, elle pollue, les Indes la saluent. Ma haine, ma haine.
Notre rencontre, si j'en crois ma montre, était à l'heure pile où je voulais régler mes comptes. Elle m'a dit tu es noir, il voudrait que tu aies honte, mais tu n'es pas cette bête de foire que l'on dompte. Notre rencontre, si j'en crois ma montre, était à l'heure pile où je voulais régler mes comptes. Elle m'a dit tu es noir, il voudrait que tu aies honte, mais tu n'es pas cette bête de foire que l'on dompte. Notre rencontre, si j'en crois ma montre, était à l'heure pile où je voulais régler mes comptes. Elle m'a dit tu es noir, il voudrait que tu aies honte, mais tu n'es pas cette bête de foire que l'on dompte. Notre rencontre, si j'en crois ma montre, était à l'heure pile où je voulais régler mes comptes. Elle m'a dit tu es noir, il voudrait que tu aies honte, mais tu n'es pas cette bête de foire que l'on dompte.
Il voudrait que tu aies honte. 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 Il voudrait que tu aies honte.
que tu es.
A-L-F-A-L-S-H, cousin. B-James, Kazay, prodige. Putain, tragédie d'une trajectoire, cousin. C'est toujours la délinquance notoire, cousin. Sapiens blanc, coq et sarcelle, cousin. Péril maîtrisé au scalpel, cousin. Meurs tout en droit et neuf sale, cousin. A-L-F-A-L-S.
C'était donc Ma haine de Kazé featuring B-James et Prodige, hein, puisqu'elle n'était pas seule sur ce morceau. Et c'est un morceau qui est issu de l'album Tragédie d'une trajectoire, qui est un album qui a quelques années, 2006. Et Kazé vient donc de sortir un autre album qui s'appelle Le Libérer la Bête. Voilà pour les infos musicales. Vous pouvez toujours nous appeler, il n'est absolument pas trop tard, nous on est là donc pour témoigner, poser des questions sur les sujets de vos choix. Le numéro de téléphone, si jamais vous l'avez loupé, c'est le 04 76 09 09 09. Et en attendant, moi cet après-midi, j'étais un petit peu voir sur le forum ce qui se passait aussi, pas sur les mycoses, puis on en a bien parlé, je pense qu'on va pas revenir dessus tout de suite.
Oui, si on pouvait l'oublier quelques instants.
Mais donc sur un... Bah écoute Marina, t'as qu'à dire le sujet et puis on verra après.
D'accord. Il y a bientôt 2 mois, le 23 mars précisément, j'ai eu un rapport avec un copain et comme des cons, on s'est pas protégés. Dès le lendemain, je suis allée chercher la pilule du lendemain. Seulement depuis, je n'ai toujours pas eu mes règles. Mais je n'ai pas pris trop de poids, juste un peu de ventre, à peine. J'ai très peur, d'autant plus que je suis tombée sur ça. 2 points, ouvrez les guillemets. Caractéristique essentielle du déni. Le corps ne présente pas de signes de grossesse, il n'y a pas de ventre, il n'y a pratiquement pas de prise de poids, ni de masque de grossesse. Les femmes ne sentent pas bouger le bébé. Fermez les guillemets. Je n'ai que 15 ans, je ne veux pas que mes parents la prennent, d'autant que je ne suis sûre de rien. Que dois-je faire ? Aidez-moi avant qu'il ne soit trop tard et que je ne puisse plus avorter, s'il y a bel et bien une grossesse.
Voilà. Bon, si jamais vous êtes dans ce cas précis ou pas, mais en tout cas vous vous demandez si vous êtes enceinte ou pas et que ça vous torture, mais faites un test de grossesse, c'est quand même le plus simple, quoi. Par rapport à la pilule du lendemain, c'est clair qu'elle ne marche pas forcément, ça dépend quand on la prend, ça dépend d'autres facteurs, et du coup, comment c'est censé se passer ? En fait, on est censé avoir du coup, si elle a marché, nos règles à peu près au moment où elles étaient prévues, s'il n'y avait pas de grossesse. Et ce qui est conseillé vraiment, c'est si 5 jours après cette date à peu près, ou cette période où on est censé avoir nos règles, on ne les a pas, de vraiment faire un test pour contrôler que la pilule du lendemain a bien marché, quoi.
À propos des tests de grossesse, donc il y a les tests qu'on trouve en pharmacie ou en parapharmacie, donc qui coûtent un petit peu cher.
Qui sont des tests urinaires, ouais, qui coûtent... Voilà.
Je sais plus comment c'est en ce moment, mais enfin en tout cas voilà, c'est des tests, on fait ces petits bâtons, là on fait pipi dessus et puis il y a un plus ou un petit rond qui apparaît, enfin bon ça dépend lesquels, ouais. Et ça dépend les marques. Et puis on sait si on est enceinte ou pas. Malheureusement ces tests ils sont pas complètement fiables. Alors moi si vraiment ça vous angoisse et tout, bah, dans tous les cas si ça marque que c'est positif, on vous fera faire un autre test, faut aller voir son médecin et puis on vous fera un test sanguin. Mais la prise de sang, ça, c'est complètement sûr. Donc, que ce soit sur ordonnance ou pas, vous allez dans un laboratoire, vous demandez une prise de sang pour savoir si vous êtes enceinte ou pas et vous savez quoi.
Ouais, du coup, il y a vraiment, là, c'est ouais, y a vraiment de ces sang, deux c'est méthodes. 100%... Test urinaire qui n'est jamais remboursé, qui coûte cher, sauf à certains endroits qui sont un peu moins chers, notamment sur Grenoble, la pharmacie là, qui est à côté du tram, d'arrêt tram Saint-Bruno. Elle a des tests urinaires pas chers. Mais c'est vrai que c'est pas total fiable, quoi. C'est-à-dire, si c'est négatif, vaut mieux en refaire derrière. Et donc, par contre, le test de prise de sang, en fait, celui-là est 100% fiable. Bon, sauf une erreur humaine dans l'analyse des données, quoi. Ce qui peut arriver, hein, mais a priori, c'est hyper rare.
Pas de ces témoignages-là. Voilà. C'est des témoignages de femmes qui avaient peur d'être enceintes, qui ont fait un test qui s'est avéré négatif, un test urinaire, qui du coup se sont rassurées et qui finalement étaient enceintes. Il y en a quand même pas mal.
Donc. Et puis, ouais, l'avantage aussi, c'est que si on passe par un médecin, ben, c'est remboursé, quoi. Donc, alors que les tests urinaires, pas. Voilà pour les tests. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sur la question du déni de grossesse. En fait, à partir du moment où on se pose la question et qu'on a peur d'être enceinte, ce n'est pas un cas de déni de grossesse. Parce que bon, on va peut-être pas s'étaler aujourd'hui sur le déni de grossesse. On pourra en parler si ça vous intéresse une prochaine fois.
Mais aussi parce que c'est un très gros sujet, voilà. Complexe et tout, et que je voudrais pas qu'on l'aborde à la
rapidement,
légère.
Rapidement, comme ça. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que, une des caractéristiques du déni, c'est que l'éventualité d'une grossesse ne nous vient pas à l'esprit, quoi. Donc, si on se pose la question qu'on a peur d'être enceinte, c'est soit on est enceinte, soit on l'est pas, mais c'est pas le cas de figure du déni. Voilà.
En tout cas, voilà, il faut faire le test, en fait. Ouais, ça sert à rien de stresser pendant des semaines à se demander, alors que tu fais le test, tu sais pas. Enfin,
Surtout qu'au plus tu stresses, au moins t'as tes caries. Vraiment, c'est un peu le.
Ah, ça, c'est sûr. Hein.
Et puis même, bon, voilà, en fait, sur les pilules du lendemain, moi, j'ai envie de dire, ça peut être une bonne idée de vérifier systématiquement par un test de grossesse s'il a marché, en fait, même s'il y a des règles qui arrivent, parce que des fois, il peut y avoir quelque chose qui sont pas vraiment des règles. Enfin, voilà.
Parce que c'est vrai, hein, moi, j'ai entendu quand même plusieurs témoignages de femmes qui ont pris la pilule du lendemain et qui ont été enceintes malgré tout ça. Alors, est-ce qu'elle était prise trop de temps après la contamination? C'est pas vrai, c'est pas du tout ce que je pense. Je voulais dire la fécondation. Qu'est-ce que je voulais dire?
Oui, ça dépend.
Ou est-ce que c'est parce que ça marche pas toujours très bien? Je sais pas vraiment, mais il y a quand même plusieurs. Il y a vraiment une proportion, je sais pas c'est quoi, mais assez importante pour que j'en entende régulièrement parler, de femmes qui poursuivent leur grossesse malgré qu'elles ont pris la pilule du lendemain.
Absolument.
Donc, ça vaut le coup de vérifier quand même. Hein.
Bon. Après, sur la question de qu'elle a 15 ans, elle veut pas que ses parents le sachent, elle veut pas avoir d'enfant. Bon, bah c'est sûr qu'il y a si elle est enceinte, il y a toujours la possibilité d'avortement, quoi. Alors, en gros, les délais d'avortement, pour vous les rappeler, il y a deux méthodes d'avortement. Une méthode par une prise de médicaments, on va dire, qui vont déclencher une expulsion. Cette méthode-là, elle est possible jusqu'à 5 semaines de grossesse. Donc, en gros, ça fait jusqu'à 7 semaines après le début des dernières règles. Voilà, en gros.
Tu peux expliquer cette histoire de 5 semaines ou 7 semaines?
Ouais.
Moi, je trouve ça très compliqué.
Oui, c'est un peu compliqué.
Je ne dois pas être la seule à trouver ça.
C'est un peu compliqué, c'est pour ça que j'essaie juste de donner des chiffres comme ça. Bon, je vais essayer d'expliquer, mais en gros, le moment de fécondité, mais c'est vraiment en gros, et ça change d'une femme à l'autre, d'un moment du cycle à l'autre, bon bref. Le moment où on est féconde, c'est au moment de l'ovulation, c'est-à-dire quand l'ovule se détache de l'ovaire, va faire le petit parcours dans la trompe, là, avant d'aller dans l'utérus et puis d'être expulsé via les règles classiques, quoi. Et du coup, c'est le moment, entre le moment où il sort de l'ovaire et où il arrive dans l'utérus, qu'on est féconde. En sachant que comme les spermatozoïdes, ils survivent pendant 4 jours, ça veut dire qu'en fait il faut partir de 4 jours avant le moment où l'ovule est déclenché. Donc bref, c'est des anticipations qui sont pas possibles de faire à part d'être vraiment hyper réglées à l'heure près, quoi. Voilà. Du coup, on se dit quand même, les médecins, les scientifiques, quand ils calculent l'âge de la grossesse, font comme si l'ovulation avait eu lieu 2 semaines après les règles. Les dernières règles effectives qui ont lieu. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 semaines d'écart. Quand on dit 5 semaines de grossesse ou 7 semaines d'aménorrhée, donc depuis les dernières règles, c'est ça.
Donc si on n'a pas d'idée sur quand est-ce qu'on a bien pu tomber enceinte parce qu'on a souvent baisé...
Il faut regarder ces dernières règles. Ouais.
Voilà. Donc, et la date du début de ces règles.
Voilà, c'est ça.
Donc 7 semaines sans règles, d'aménorrhée... Ça veut dire
pas sans règles, c'est-à-dire depuis le début des dernières règles. Donc, il peut y avoir jusqu'à une semaine de règles au début. Donc, ça fait 6 semaines, en fait, derrière. D'accord. Donc, c'est vraiment depuis le premier jour des règles.
Alors, on va arrêter de mettre que des chiffres différents. Donc, jusqu'à 7 semaines depuis le début de ces règles.
On peut avorter par la méthode médicamenteuse, qui est en gros une méthode où on va prendre des comprimés, il faut passer par le médecin, soit son médecin de ville récemment, les plannings familiaux aussi délivrent cette pilule-là. Et en gros, ça se fait en deux prises, on peut soit rester dans le cabinet, soit rentrer chez soi si on est entouré pour que l'expulsion se fasse. Voilà, bon, bah, ça peut être douloureux, faut quand même faut prendre soin de soi, c'est-à-dire faut pas aller bosser derrière, faut se poser, être entouré. Voilà, ça c'est la méthode médicamenteuse. Tu veux rapporter un peu.
Je voulais juste dire qu'effectivement, il y a des femmes qui vivent ça assez facilement et il y en a d'autres qui vivent ça plus difficilement. Ça peut aussi dépendre du moment dans sa vie, de comment on est entouré ou pas, du contexte dans lequel on est tombé enceinte et de pourquoi on avorte. Enfin, c'est quand même très très compliqué les explications de comment on peut bien ou mal vivre son avortement. En tout cas, vivre seul, ça, c'est pas forcément évident quand même, hein, parce que on expulse un petit œuf quand même.
Oui, il y a des mini contractions quoi qui se passent dans l'utérus,
tu sais, quoi. Et tout ça, c'est pas. Ouais. Moi, je conseillerais de pas le vivre seul et de s'entourer de ses copines et de se mettre sous la couette et de regarder des séries en buvant du thé.
Ouais, c'est pas mal ça.
C'est une bonne idée. Ce qu'on voudra, chacune fait bien comme elle veut, mais en tout cas.
Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode, mais qui, effectivement, on ne peut pas utiliser très longtemps. Et notamment dans le cas de cette question de forum, pour cette méthode-là, c'est trop tard pour cette femme-là.
Ah ben oui.
Ouais. Donc, par contre, ce qui est possible, et ce qui est possible depuis le début, hein, ça peut être avant 5 semaines aussi, c'est la méthode dite mécanique, c'est-à-dire on va une opération, c'est pas vraiment une opération, parce qu'on va rien ouvrir, en fait. Il va y avoir une anesthésie, soit locale, soit générale, au choix. Théoriquement, c'est au choix, donc c'est bien chacune qui décide quel type d'anesthésie elle veut. Et après, par la méthode dite Karman, on va aller aspirer le petit œuf, en fait, qui est à l'intérieur de l'utérus. Donc, il y a une sonde qui est rentrée, et puis on aspire pour nettoyer un petit peu l'utérus. Voilà, c'est ce qu'on appelle la méthode mécanique, ou dite aussi chirurgicale, mais bon, c'est pas vraiment de la chirurgie, quoi.
Ou dite plus familièrement d'aspiration.
Ou dite d'aspiration aussi. Donc, celle-là, elle est possible jusqu'à 12 semaines de grossesse, donc 14 semaines depuis la date des dernières règles.
Ça fait combien de mois, ça ?
14 semaines, ça fait 2 mois et demi, 3 mois. 3 mois presque.
D'accord, donc elle, par exemple, la fille, là, elle est dans les temps pour pouvoir avorter.
Bon, après, dans le circuit de l'avortement, théoriquement, il y a une semaine de réflexion qui est obligatoire entre le premier rendez-vous chez le médecin ou au planning familial et le moment de l'avortement. C'est un délai qui peut être réduit à 48 heures en cas d'urgence, et notamment quand on est un peu proche des délais comme ça, c'est possible de réduire ça. Mais dans ces cas-là, je conseille quand même de passer par les plannings familiaux où ils sont quand même plus compréhensifs et ils facilitent ces démarches.
Et elle a 15 ans. Comment ça se passe quand on est mineur ?
Ouais. Alors quand on est mineur, depuis avant, on avait besoin d'une autorisation parentale. Et depuis la loi de 2001, donc aujourd'hui c'est une loi qui a été sortie en 2001 qui régit un petit peu les règles de l'avortement, on n'a pas besoin d'autorisation parentale pour avorter quand on est mineur. On a besoin d'une personne majeure qui nous accompagne en tout cas, mais qui peut être par exemple une personne du planning familial, c'est pas forcément quelqu'un de sa famille en fait, et pas forcément les parents. Donc voilà, ça c'est une grande avancée, je trouve, de cette loi de 2001, c'est qu'en tant que mineur, on n'a plus besoin de l'autorisation de nos parents, et c'est quand même une petite révolution, quoi, j'ai envie de dire.
Oui, c'est clair, parce que ça dépend des parents qu'on a, mais enfin, c'est pas forcément facile de dire « Maman, je suis enceinte
ouais. ». C'est clair. Voilà. Bon, et puis après, une fois que les délais légaux en France sont passés, ben, il y a des pays qui ont des délais un peu plus larges. Et il y a beaucoup encore de femmes qui vont avorter dans d'autres pays, notamment en Hollande ou en Espagne. Mais apparemment, là, Hollande, les conditions seraient meilleures.
Moi, j'ai souvent entendu dire il vaut mieux aller en Hollande qu'en Espagne. Mais je n'ai pas fait l'expérience personnellement, mais en tout cas, j'ai souvent entendu dire ça.
Mm-hmm. Bon, mais après, ça veut dire que c'est pas remboursé par la Sécu, ça veut dire que ça coûte des sous, il faut trouver le moyen de transport.
Le voyage, tout ça, c'est quand même pas évident. Mais encore une fois, si vous avez la chance de vivre dans une ville où il y a un centre de planification, un planning familial, et ben vraiment, là-bas, il peut y avoir du soutien pour des situations d'urgence. Ouais. Voilà.
Voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire sur cette question de forum. Bon, voilà, c'était un peu rapide et des données un peu techniques, mais voilà, n'hésitez pas à appeler pour rediscuter de ce sujet-là. Alors, peut-être pas ce soir, parce que
voilà, je pense
c'est
qu'on
déjà
va
l'heure.
L'émission, mais ouais, c'est vrai que moi, je trouvais ça important, là, de ce que ça soulève, cette question de forum, c'est vraiment aussi le stress qu'on est capable de se mettre dans la vie, alors que... dire plutôt que de se dire je sais pas, j'ai peur d'être enceinte, bon bah je vérifie et puis comme ça je le sais, je si c'est oui ou non, et à partir de là je fais ce que j'ai envie de faire, quoi. Ouais. Enfin bon, je voilà,
mais
je gère ensuite tout le reste, mais tant qu'on n'est pas sûr on gère rien et finalement on panique pour rien.
Mais c'est pas que sur des questions de sexualité ou de grossesse, ou de c'est aussi ce truc de pas vouloir savoir, comme ça évite de se poser trop de questions et de prendre des décisions sur ce qu'il faut faire.
Bah ouais, mais c'est tentant, t'as pas envie d'y penser, puis ça te stresse la nuit pendant tes insomnies, mais bon le reste du temps t'y penses pas parce que ouais c'est, et puis je sais pas, peut-être aussi quand on a 15 ans on a vraiment, c'est stressant quoi. Les parents, tout ça.
Bah oui. Oui, c'est pas évident.
Ah, c'est pas facile. Mais nous on va se quitter, peut-être on a quelques infos
les infos
faire passer avant de terminer. Qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller comme moment agréable à vivre sur l'agglomération grenobloise et en lien avec ce dont on parle nous dans Calibre. Alors, il y a un spectacle qui est génial qui tourne en ce moment dans l'agglomération grenobloise. Je l'ai vu hier soir, il est vraiment super. C'est un spectacle sur Emma Goldman. Emma Goldman, c'était une anarchiste au début du XXe siècle qui a fait plein de trucs, qui a écrit plein de choses, qui faisait des discours enflammés sur, donc autant sur l'anarchisme, sur la révolution, mais aussi sur, sur les questions des femmes et sur la situation des femmes au début du siècle aux États-Unis et en Russie. Et du coup, c'est là le lien avec Calibre, vous avez vu. Et donc, c'est un spectacle qui vaut vraiment la peine. Et alors, je vais vous dire les dates où c'est possible de voir ce spectacle.
Alors, la prochaine date qui est possible, puisque bon, y a une représentation samedi, mais elle est complète. Donc, la prochaine date possible, c'est mercredi prochain, donc le 16, juin, à la MJC de Fontaine, qui se situe sur l'avenue du Vercors. Voilà, et c'est à 20h ou 20h30, je ne sais plus.
Venez à 20h.
Venez à 20h, comme ça vous aurez des places devant.
Donc à la MJC Vercors à Fontaine le 16 juin, le 19 juin...
Le samedi 19, c'est à Pont-en-Royans, dans le Royan, à la médiathèque La Halle. Voilà, 20h ou 20h30, pareil, je ne sais plus, j'ai pas le tract sur moi là.
Voilà, et le 22 juin... Une représentation un peu particulière, puisque c'est une représentation en non-mixité femme.
Voilà.
Voilà, à Antigone.
À Antigone.
22 rue des Violettes, à Grenoble, vers le quartier des Eaux Claires.
Voilà, il faut penser à réserver, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et c'est déjà bien rempli.
Alors, comment on fait pour réserver ?
Ah bah alors, pour réserver, vous pouvez écrire un mail à Antigone, ou les appeler, vous trouvez leur contact sur Internet, ou alors vous pouvez envoyer un mail au contact de ce groupe de théâtre, et le mail c'est en suivant Emma, donc en suivant A-N-T Emma E-2-M-A tout attaché @gmail.com. Voilà. Et puis la dernière date de juin, peut-être qu'on peut vous dire, ce sera le mercredi 30 juin à l'amphithéâtre de Pont-de-Clé, donc la condition de théâtre avec une scène, des gradins qui feront que tout le monde pourra tout voir. Et ça, pareil, il faut contacter la troupe parce que c'est uniquement sur invitation gratuite, mais il y a plein de places, donc c'est possible d'en avoir, quoi.
Super. Et donc, c'est un super spectacle que je conseille vraiment à tout le monde. Et puis aussi une soirée organisée notamment par votre chère équipe de Calibre et par des compagnons et des compagnonnes de Calibre, des amis, tout ça. C'est une soirée toujours à Antigone, qui est un lieu qu'on aime décidément beaucoup, hein, donc une librairie, bibliothèque associative militante qui a la grande classe. Et donc c'est une soirée qu'on a intitulée Let's Talk About Sex.
Tout à fait.
Voilà, vous avez compris.
Et comme ça veut dire « let's talk about sex », c'est si on parlait sexe, quoi. Oui. Voilà, en gros.
Mais vous aurez compris, du coup, que c'est une soirée où, bah, comme on aime bien faire à Calibre, quoi, on se dit que c'est nécessaire dans la vie qu'on aborde ces sujets, qu'on en parle collectivement et qu'on puisse poser les questions qu'on se pose et puis échanger, et que c'est là qu'on trouve, qu'on avance, qu'on peut réfléchir ensemble, qu'on peut avancer sur ces sujets-là, qu'on trouve matière à réflexion. Enfin, ça nous semble riche et important, donc c'est pour ça qu'on vous propose cette soirée.
Voilà, qui sera donc le vendredi 18 juin, donc bientôt, hein, finalement, la semaine prochaine,
oui.
À partir de 19h. Donc la soirée commencera à 20h, mais à 19h, il y aura un buffet en prix libre, en soutien à l'émission. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop dit, ça, mais c'est une émission où on est toutes et tous bénévoles. Hein. Il n'y a pas de subvention. Voilà. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de sous. Et que...
Quand on dit en soutien, ce n'est pas pour nous payer, nous. Du coup, c'est bien pour pouvoir payer les affiches, tout ça, quoi. Et les feutres,
oui,
parce qu'on s'écrit entre les techniciennes et les animatrices, on a besoin de communiquer, les feutres ne marchent plus.
C'est horrible.
Donc venez manger des tartes avec nous le 18 juin et discuter de sexualité avec nous.
Bon,
il est l'heure de se séparer.
Oui.
Merci à l'auditeur qui nous a appelés pour nous rappeler que les hommes aussi
souffraient de mycose.
Les petits champignons... Voilà, et pour finir, on va écouter un morceau de... Non, on passe directement le jingle ou...
Non, on peut mettre le morceau. Ah, allez.
On passe un...
Oh. Oh.
Allez, maintenant qu'on l'a dit, on va le faire.
Oui.
on va passer un morceau de Laurie Neale.
Ah ben en fait, oui.
Moving down the streams of my lifetime. Pulls a fascination in my sleep. Off the fire of my longing, warming up my cold within his heat, bouncing down the walls of inhibition, evaporating all of my fears, baptizing me into complete submission. Dissolving my condition with his tears. It's just like the water. I ain't felt this way in years. It's just like the water. The water. Passing through my senses, he's prevailing. Floating through the space of my design. Drowning me, I find my inside sailing. Drinking in the mainstream of his mind. Filling up the cup of my emotions. Spilling over into all I do. If only I could get lost in his ocean. Surviving on the thought of loving you. It's just like the water. Causes my expression to remain humbled on the mountain by his presence, washing my intentions with his name, sealing all the floodgates of his passion, saving all his liquid for his own. Driving me to satisfaction, and my imagination all alone. He's pouring out his soul to me for hours and hours, drawing out my nature with his hands, yearning. I'm so thirsty for his power.
On a oublié de vous dire au revoir. Les techniciennes, elles ont mis la musique. On a cru qu'on pouvait plus parler. Enfin bon, bref, on s'est pas bien compris. Alors, on voulait vous dire au revoir.
Voilà, ce soir, c'était Mélanie, Laura, Marina et Myriam pour Calibre.
Et puis, on finit du coup avec ce petit morceau de Laurie Neal et sa belle voix qui nous chante Just Like Water.
À la semaine prochaine.
Salut.
Actualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.